Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose ce soir d'aborder la problématique de la rencontre islamo-chrétienne sous son aspect interreligieux et d'essayer de proposer quelques points de repère pour aborder cette problématique. Dans un premier temps, comme vous le voyez, je voudrais reprendre des éléments que nous avons vus déjà de façon un peu plus dispersée à travers le cours sur la perception musulmane du christianisme, hein, comment le christianisme est perçu par l'islam. Un premier élément que nous avons bien sûr déjà vu, hein, c'est la valorisation de la figure de Jésus, qui est appelé le Messie, qui est prophète, qui est un grand prophète, qui est l'un des cinq envoyés de Dieu chargé de transmettre une loi religieuse, une voie de salut aux hommes, qui est doué de privilèges personnel, sa naissance virginale, les miracles qu'il opère, son retour à la fin des temps. Il est le fondateur d'une des trois grandes religions célestes qui appelle la race adamique à revivre et à témoigner de la foi d'Abraham dans le Dieu 1. Les juifs et les chrétiens font partie des gens du livre, du point de vue de l'islam, avec un accent mis sur la plus grande proximité des chrétiens à l'égard des musulmans, puisque on peut citer ce texte du Coran qui dit « Tu trouveras certes que les gens les plus hostiles à ceux qui croient sont les juifs, et ceux qui donnent à Dieu des associés, tu trouveras que les gens les plus proches de ceux qui croient par l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », c'est que parmi eux se trouvent des prêtres et des moines et que ces gens ne s'enflent point d'orgueil. Quand ils entendent ce qu'on a fait descendre sur l'apôtre, sur Mohammed, tu les vois répandre des larmes de leurs yeux à cause de ce qu'ils savent de la vérité et de s'écrier « Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc avec les témoins ». Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et à la vérité venue à nous, alors que nous avons soif que notre Seigneur nous fasse entrer au paradis avec le peuple des saints ? Donc le christianisme est perçu dans cet extrait de la sourate 5 comme une forme d'acheminement vers l'islam. En effet, si Mohammed est le sceau de la prophétie, c'est que sa prédication a repris, condensé, valorisé et prolongé les messages antérieurs. Donc non seulement dans cette perspective, l'islam ne s'oppose pas au vrai christianisme, mais il l'accomplit. Le chrétien sincère, fidèle à l'évangile, qui vivait avant la venue de Mohammed, était d'une certaine façon déjà un musulman de façon incoative, sans doute incomplète, mais réel. Mais alors d'où vient la difficulté qu'ont chrétiens et musulmans à se reconnaître comme frères? Aux yeux des musulmans, l'obstacle principal vient du refus des chrétiens de reconnaître Mohammed comme prophète, alors que sa mission était pourtant annoncée par la Torah et l'Évangile. Nous en arrivons là à ce thème important de reproche fait aux chrétiens et aux juifs d'avoir manipulé ou falsifié leurs écritures, puisque des textes authentiques ont été déclarés apocryphes et certaines accusations vont même plus loin en faisant valoir un pseudo-évangile de Barnabé qui est en fait un faux forgé au XIe siècle, comme l'ont montré différentes études, et qui non seulement prédit la venue de Mohammed, mais enseigne par avance l'islam. Il est aussi régulièrement souligné que tout ce qu'un musulman ne saurait admettre dans la formulation des dogmes chrétiens vient non des évangiles, mais de développements ultérieurs, de saint Paul ou d'autres développements ultérieurs. Donc, premier élément, la valorisation de Jésus. Deuxième élément, la difficulté de la non-reconnaissance du prophète Mohammed et avec cette suspicion que les textes l'annonçant ont été supprimés ou transformés. Et puis alors il y a toutes les difficultés relatives aux dogmes importants et essentiels de la foi chrétienne. Les auteurs musulmans s'emploient à prouver par des arguments rationnels l'impossibilité ou la vanité des mystères chrétiens en s'appuyant régulièrement sur des textes coraniques, par exemple par rapport à la Trinité, ne dites point trois, Dieu n'est que divinité unique, dans la sourate 4, ou impie ceux qui ont dit Dieu est le troisième d'une triade, dans la sourate 5. Concernant l'incarnation, à Dieu ne plaise d'avoir un enfant, sourate 4, car il n'engendre pas et n'est pas engendré, sourate 112. En conséquence, impie ceux qui ont dit Dieu est le Messie, fils de Marie, ou encore au Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, moi et ma mère, comme divinité en dessous de Dieu? Et le Jésus coranique condamne lui-même ceux qui ont déformé ses paroles. Jésus, en effet, est bien un verbe de Dieu, selon la sourate 3, il est son verbe jeté par Dieu à Marie, il est un esprit venu de Dieu, il est le Messie, mais il ne trouve point digne d'être un serviteur de Dieu, car un homme même créé miraculeusement par Dieu ne saurait être Dieu. Dieu est un, il est l'inaccessible. Et relativement à la résurrection du Christ, nous l'avions vu la fois dernière, le Coran affirme clairement, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur sembla seulement. Donc nous voyons que l'apologétique musulmane trouve dans le texte de la Révélation des négations formelles, hein, des mystères chrétiens, bien que on pourrait se dire que ces formules ne nient que rarement explicitement les mystères chrétiens, mais plutôt des hérésies chrétiennes. Hein, donc c'est une sorte de trithéisme plus que la Trinité qui est niée par le Coran, et souvent une forme de docétisme à propos du Christ plutôt que la foi de l'Église. Il reste néanmoins que pour la tradition musulmane, ces textes visent bien les dogmes chrétiens de l'incarnation, de la Trinité et de la mort et de la résurrection du Christ. Autre élément relatif à la perception musulmane du christianisme, c'est tout ce qui touche au sort futur des chrétiens. Qu'adviendra-t-il des chrétiens dans l'au-delà? Concernant les chrétiens qui ont vécu avant la venue de Mohammed et qui ont été fidèles à la loi de Jésus, ils sont incontestablement sauvés. Ils étaient en effet fidèles ainsi au pacte primordial et à la révélation authentique que Dieu avait fait descendre. Mais les chrétiens qui, interprétant l'Évangile en un sens erroné, tenaient des associés à Dieu, et ceux qui, depuis la venue de Mohammed, se refusent à l'appel à l'islam, là, pour les docteurs de l'islam du passé et pour la foi populaire à leur suite, ces chrétiens-là se sont détournés du salut promis aux croyants. Leur foi, dirions-nous en termes chrétiens, n'est plus une foi salvatrice. Et dans l'eschatologie populaire d'ailleurs, il est un cercle particulier de l'enfer qui leur est réservé. C'est le troisième, celui du feu des enfants, pas le pire, mais pas la meilleure place quand même. D'autres auteurs développent une argumentation moins abrupte. Pour eux, si un chrétien est sauvé, ce n'est point en raison de son appartenance à une église, mais dans la mesure où en restant fidèle à l'authentique parole de Jésus, il est par là même tout proche de la foi musulmane. La conviction et l'espoir demeurent qu'il en recevra l'appel si aucun obstacle insurmontable ne l'en empêche, si aucun préjugé invincible ne vient l'en détourner. Nous trouvons là finalement des thèmes que l'on retrouve aussi dans certaines théologies chrétiennes du salut des non-chrétiens, où l'on reconnaît que les non-chrétiens pourraient accéder au salut, non pas en raison de leur religion propre, mais bien en raison de la proximité, de leur sincérité par rapport à la foi chrétienne. Donc c'est le dernier point que nous verrons aujourd'hui, à la perspective inclusive en théologie des religions, qui consiste à dire que l'autre a droit au salut, mais en raison d'une autre foi que celle qu'il professe. Donc nous trouvons ce même raisonnement chez différents auteurs musulmans. C'est intéressant à pointer. Donc voilà les éléments principaux de la perception du christianisme par l'islam. Maintenant, je voudrais vous proposer un rapide parcours historique de la rencontre islamo-chrétienne pour que nous puissions prendre la mesure de l'évolution des perspectives, car très souvent, quand on aborde la question, on a le nez dessus, on est pris dans une problématique particulière, et la remise en perspective historique montre que le contexte dans lequel on vit modifie souvent la perception que l'on a. C'est évidemment en Orient que les premiers contacts entre musulmans et chrétiens se sont développés, cela dès la vie du prophète Mohammed et le temps de la révélation coranique, dès l'époque des grandes conquêtes, 633, 650, 700, le croissant fertile passe sous domination musulmane et ces pays étaient largement christianisés avec une culture très développée, scientifique, philosophique et théologique, en grec et en syriaque. Et les autorités musulmanes, d'ailleurs, ont su utiliser les savants chrétiens comme médecins, comme traducteurs de l'héritage hellénistique, ou même comme administrateurs de leur territoire. Ce sont donc des rapports en général cordiaux qui s'établissent au départ entre chrétiens et musulmans, aussi bien au niveau des élites responsables qu'au niveau du peuple. On voit néanmoins se développer des écrits de ces chrétiens de l'Empire musulman qui parlent souvent de l'islam, et certains sont consacrés d'ailleurs à la polémique apologétique, qui est un sport national. Ils reconnaissent souvent la valeur religieuse de l'islam, tout en s'efforçant de prouver la vérité et la supériorité du christianisme et de ses dogmes, en les expliquant au public musulman à partir d'analogies avec la doctrine musulmane. Et leurs écrits témoignent à la fois d'une bonne connaissance de l'arabe, de la doctrine musulmane et d'un ton relativement irénique. Donc là, c'est la situation que l'on peut dire dans les pays où la cohabitation est effective, où on vit ensemble dans des empires musulmans. Si on prend le contexte byzantin, là l'ambiance est évidemment toute différente, puisque l'empire byzantin est en lutte continue contre l'empire musulman, et les perspectives sont alors beaucoup plus polémiques, avec un ton souvent injurieux, moins bien informé aussi, et très négatif envers l'islam, même lorsqu'il leur concerne certaines vérités. Même perspective en Occident, où l'atmosphère est en gros la même que chez les Byzantins. Ce sont deux puissances temporelles en lutte. On a les conquêtes musulmanes de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, de la Sicile, puis les croisades, avec des temps néanmoins de répit pendant lesquels une certaine symbiose s'installe en Espagne, en Sicile, à Naples. J'évoquais tout à l'heure l'évangile de Barnabé. C'est précisément dans ces contextes de symbiose plus ou moins syncrétique que sont produits des faux comme l'évangile de Barnabé. Si on veut reprendre les grands traits médiévaux de la perception en Occident de l'islam, on peut finalement distinguer trois courants principaux. Un premier qui est un courant d'échange culturel, surtout en Espagne, Tolède et Burgos, et en Italie, Naples et la Sicile, qui permit de traduire en latin une grande partie des sciences hellénistiques, philosophie, médecine, sciences exactes, transmises entre autres par les Arabes et développées par eux. Donc l'arrivée des sciences arabes en Occident jouera un rôle important dans l'essor intellectuel du Moyen-Âge au XIIe et XIIIe siècle, la naissance des grandes universités et l'essor intellectuel qui s'ensuit. Donc un premier courant que l'on pourrait qualifier d'échange culturel. Puis alors il y a un courant plus populaire qui est tissé de légendes plus ou moins absurdes, dont témoigne par exemple la chanson de Roland ou le roman de Mahon dans la légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle, où Mahon, Mohammed, est une idole qu'adorent les musulmans avec le diable, Jupiter et Apollon. Ou encore Mohammed, qui est un cardinal romain déçu de ne pas avoir été élu pape et qui meurt ivre parmi les porcs. Ce sont des légendes qui sont également présentes au Moyen-Âge et qui donnent une perception très, très négative de l'islam et du monde musulman, que l'on retrouve même chez de grands auteurs, puisque Saint Bernard, dans un de ses sermons pour la croisade, déclarera que tuer un musulman n'est pas un homicide, mais un malicide. Formule terrible. Un troisième courant, qui est un courant plus apologétique et polémique, alors, qui vise à réfuter l'islam, mais en cherchant d'abord à le connaître. C'est ainsi qu'on voit que la première traduction latine du Coran est faite à la demande de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, et qu'elle date de 1141. Donc il y a aussi un courant qui vise à connaître l'islam. Évidemment, cette traduction de Pierre le Vénérable sera suivie d'une série de réfutations de l'islam et du Coran. Cette activité importante conduit néanmoins à une meilleure connaissance du Coran, de l'islam et de l'arabe, mais dans l'ensemble, cette meilleure connaissance a pour but de mieux réfuter et n'évite pas les propos peu respectueux à l'égard du prophète Mohammed. Il est régulièrement traité de faux prophète, d'imposteur, de nouvel Arius, d'antéchrist, de bête de l'Apocalypse, de démon incarné. Et d'ailleurs, la polémique musulmane contre le christianisme adopte à cette époque un ton tout à fait analogue. Les exceptions qu'on peut noter, c'est quelques grands esprits comme Saint Thomas ou Raymond Lulle, et aussi les franciscains et les dominicains qui parcourent le monde et sont sensibles à la valeur de la vie religieuse des musulmans, à leur piété, au sérieux de leurs jeunes, à leur justice et à leur charité. Il y a aussi cette lettre tout à fait étonnante du pape Grégoire VII au prince de Mauritanie, El-Nassir ibn At-Tennas, en 1076, où le pape Grégoire VII loue les qualités humaines et charitables de son interlocuteur, soulignant que musulmans et chrétiens, fils spirituels d'Abraham, reconnaissent tous un seul Dieu créateur, gouvernant ce monde de toute éternité. Donc nous voyons finalement un tableau assez diversifié dans l'Occident médiéval, et qui est à la fois marqué par les conflits, les guerres, marqué par un souci de connaître, de recherche intellectuelle et aussi tout un courant de légendes plus populaires. Si on s'avance un petit peu dans le temps, la Renaissance, les 15e et 16e siècles en Occident, est l'époque de l'humanisme, des concordances, qui tournent d'ailleurs parfois au syncrétisme, et c'est ainsi qu'apparaissent des essais de concorde entre les religions et en particulier entre l'islam et le christianisme. Mais parallèlement à ces essais de syncrétisme de la part des humanistes, la polémique anti-musulmane se poursuit aussi avec de nouvelles réfutations du Coran, et les réformés protestants sont d'ailleurs tout aussi hostiles au moment de la réforme à l'islam que ne l'étaient les milieux catholiques. Mohammed est toujours un faux prophète. Le siècle des Lumières, 18e siècle, est celui du rationalisme religieux et en réaction contre le catholicisme, la religion est alors perçue davantage, idéalement, comme un vague déisme rationalisant. Et certains en trouvent d'ailleurs le modèle dans l'islam. Mohammed est alors présenté comme finalement l'idéal type du libre penseur qui crée une religion à la fois naturelle et raisonnable. Au XIXe siècle, le romantisme exotique prolonge le rationalisme du XVIIIe siècle en idéalisant la figure de Mohammed, mais dans le même temps, dans l'Église catholique, le XIXe siècle est le grand siècle de l'élan missionnaire, souvent lié aux colonisations, et souvent aussi basé sur une théologie assez étroite et une vue négative des religions non chrétiennes, de toutes les religions non chrétiennes, mais de l'islam en particulier, religions non chrétiennes auxquelles on reproche autant leur perversion morale, par exemple la polygamie, que leurs erreurs doctrinales, la mission des missionnaires est de sauver ceux qui se perdent en les arrachant à ces traditions non chrétiennes erronées. C'est sur base de ce long héritage que le XXe siècle, finalement, aborde la question sous un biais un petit peu différent, en voyant se développer la recherche à la fois islamologique, sur le plan scientifique et critique, qui était déjà commencée au XIXe siècle, mais en se voulant plus objective à partir de critères purement historiques et sociologiques. Le fait nouveau concerne une perception vraiment chrétienne de l'islam à partir de cette recherche, et nous avons déjà évoqué la figure de Louis Massignon, qui à partir d'un travail de type scientifique va à la rencontre du monde de l'islam et invite alors à une prise en compte non plus de l'extérieur comme l'héritage occidental le proposait, mais à essayer de rejoindre ce qui fait le cœur même de l'expérience croyante des musulmans, le lieu où il y a cette expérience de foi, et entrer dans l'intelligence de cette expérience de foi. C'est là l'héritage majeur qui conduira alors à la perception neuve que le Concile Vatican II nous proposera il y a une cinquantaine d'années maintenant. Donc je trouve important de bien percevoir toute cette évolution et de voir combien les différentes positions adoptées sont profondément marquées à la fois par le contexte culturel de ceux qui abordent la question et par les expériences réelles ou imaginaires de la perception de l'autre. Le rencontre-t-on réellement ou est-il simplement perçu de façon imaginaire? Nous voyons à travers toute l'histoire et les différents lieux où ces discours sont produits que ces contextes déterminent de façon assez déterminante la façon de percevoir l'autre et d'en parler. Et je crois que pour aborder la question de la rencontre islamo-chrétienne, c'est une question importante à nous poser à nous aussi. De quel lieu parlons-nous? Qui sommes-nous au moment où nous abordons la question? je crois que pour éviter la myopie dans la rencontre, c'est important de faire ce travail d'une prise de conscience du lieu à partir duquel je parle. Après ce rapide parcours historique, je voudrais vous présenter les éléments hérités du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II s'inscrit au niveau de la perception de l'islam dans cet héritage très largement dû à Louis Massignon et à ces grandes intuitions qui étaient déjà présentes chez différents auteurs, à savoir mais qu'il y a trois grands axes à privilégier si on veut rejoindre ce lieu de l'expérience spirituelle de l'autre et le rencontrer en vérité. C'est d'une part un effort de rectitude intellectuelle, c'est-à-dire une connaissance juste et droite de ce que disent, pensent et croient l'autre. Que dans ce que je dis de ce qu'il croit, il puisse se reconnaître. Premier point, dimension de rectitude intellectuelle. Deuxième point qui était marquant dans cette rencontre en vérité, c'est de dire qu'un des lieux privilégiés de la rencontre est certainement l'engagement commun. L'engagement commun pour le bien de l'humanité dans son ensemble. Comme croyants, nous avons des valeurs communes qui touchent au bien commun de l'humanité. Et il y a dans la rencontre une dimension d'engagement commun qui est importante. Et puis, troisième point, qui est souligné par différents auteurs et qui est moins repris par les déclarations conciliaires, c'est celui de l'émulation spirituelle. Et je crois que tous ceux et celles qui se sont déjà engagés de façon authentique dans une rencontre non polémique, mais de partage avec un croyant d'une autre tradition, que ce soit de l'islam ou d'une autre tradition religieuse, ont pu faire cette expérience que cette rencontre constitue pour lui-même un lieu d'émulation spirituelle, c'est-à-dire d'approfondissement de ce qui fait le cœur de sa propre foi. On n'est pas dans une perspective de syncrétisme, mais bien dans une perspective où une rencontre en vérité conduit chacun à faire un pas d'approfondissement de ce qui fait sa propre tradition. Reprenons sur cette base alors les deux éléments, les deux textes qui sont proposés par le Concile Vatican II. Ils sont relativement brefs et de statut un peu inégal, puisque le premier est dans la Constitution Lumen Gentium, donc un texte qui a un poids magistériel important et qui a cette phrase qui affirme au numéro 16 « Mais le dessein de salut englobe aussi ceux qui reconnaissent le Créateur et parmi eux d'abord les musulmans qui en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux qui jugera les hommes au dernier jour. » Un texte évidemment important, il y a une affirmation forte, ils adorent avec nous le Dieu unique miséricordieux qui jugera les hommes au dernier jour, ce n'est pas rien comme affirmation sur le plan religieux, mais en même temps en retrait par rapport à tout ce qui concerne les points essentiels de la définition de l'islam, à savoir la révélation donnée au prophète Mohammed et au Coran, qui n'est même pas mentionnée. Et même la référence abrahamique est mentionnée avec une certaine réserve, comme j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, de le souligner il y a trois semaines, dans la séance sur Abraham, en adoptant une formule subjective. Qui, en déclarant qu'il garde la foi d'Abraham, ce sont les musulmans qui le déclarent, ce n'est pas l'Église qui déclare qu'il garde la foi d'Abraham. Donc, il y avait eu une version antérieure du texte qui donnait une affirmation objective. Le texte voté est passé à une affirmation subjective. Donc, On a à la fois une affirmation forte dans ce texte de Lumen Gentium, mais en même temps des réserves considérables, hein, puisque la référence abrahamique est mise dans une forme subjective, et aucune référence n'est faite ni au Coran, ni au prophète Mohammed. Donc vous voyez que l'espace, hein, on a parfois présenté de façon extrême les positions du Concile comme ayant été très loin. Non. Le Concile dessine un espace, mais en laissant beaucoup de questions ouvertes et un espace finalement assez large pour explorer la rencontre. Puis il y a le second texte qui est un petit peu plus long, dans la déclaration Nostra Aetate, donc la déclaration sur les religions non chrétiennes, qui est une déclaration, donc qui a moins de poids magistériel que la constitution Lumen Gentium évidemment, mais qui est un des textes conciliaires également, que je vous lis. L'Église regarde aussi avec estime, déjà pas mal, hein, ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire, regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Donc, si nous reprenons ce petit texte, nous voyons d'une part une description positive de la foi de l'islam, mais encore une fois, très en retrait par rapport à ce que disent les musulmans, bien que le texte soit plus long, encore une fois, aucune mention du prophète Mohammed ni du Coran. La référence abrahamique est mise, est présentée de façon légère aussi, hein, auquel la foi islamique se réfère volontiers, mais par contre, une insistance forte sur un changement de perspective dans la relation, tout d'abord avec ces premiers mots d'un regard avec estime, c'est le contraire du mépris, hein. Donc un regard avec estime, et puis cette exhortation à oublier le passé, une formule qui n'est peut-être pas la plus heureuse, et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, la rectitude intellectuelle, ainsi qu'à protéger et promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Ces éléments se sont trouvés développés par la suite dans la tradition catholique, développés à la fois par le pape Jean-Paul II, dans la perspective de ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'Assise, hein, vous vous rappelez tous de cette rencontre multireligieuse de 1986 à Assise, où le pape Jean-Paul II avait convoqué les grands responsables religieux du monde pour une prière pour la paix. Donc le lieu de la rencontre là est celui de l'attitude croyante fondamentale, celle de la prière. Donc ce n'est pas une discussion théologique, et une finalité qui est un bien commun essentiel, la paix. Donc, on pourrait caractériser le pontificat de Jean-Paul II dans la réception de Vatican II par rapport aux religions non chrétiennes par cette image de la rencontre d'Assise et ce qu'on a appelé l'esprit d'Assise, donc privilégié comme lieu de la rencontre et celui où le croyant est en prière, où l'on peut être en prière les uns à côté des autres, en vue de la paix, un appel que le pape Jean-Paul II répétera en particulier lorsqu'il s'est adressé aux jeunes musulmans dans le stade de Casablanca en 1985. Le pontificat de Benoît XVI s'inscrira lui également dans, vraiment en fidélité à l'héritage de Vatican II, mais avec un accent différent. Le pape Benoît XVI mettant davantage l'accent sur le rôle de la raison dans la rencontre interreligieuse. Pour lui, il n'hésitera pas à dire que le dialogue interreligieux, interculturel entre chrétiens et musulmans ne peut se réduire à un choix passager. C'est en effet une nécessité vitale dont dépend en grande partie notre avenir. Mais il privilégiera le rôle alors de la raison, avec bon, les malentendus alors du professeur théologien à Ratisbonne, qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit, mais qui, je crois que si on veut examiner vraiment de façon plus objective cet incident de Ratisbonne qui a quelques dommages collatéraux, mais on est vraiment dans cette perspective qui était chère à Benoît XVI, qui était de dire le lieu où des croyants de traditions différentes peuvent se rencontrer vraiment et avancer dans leur rencontre, dans la perspective de la paix aussi. Ce souci-là est très présent aussi au cours du pontificat de Benoît XVI. On est évidemment après les attentats du 11 septembre, et on voit bien les menaces qui peuvent peser sur l'avenir de l'humanité. Il mettra l'accent sur le rôle de la raison dans la rencontre interreligieuse. L'héritage de Vatican II est donc un héritage que l'on peut considérer comme authentiquement reçu dans le magistère de l'Église qui a suivi. Et on voit comment des invitations à l'approfondir se développent avec des accents différents, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. L'approche plus spirituelle de dire un des lieux de la rencontre est très certainement cette expérience spirituelle, cette expérience de foi, cette expérience de croyant, cette expérience de prière, l'esprit d'Assise. Et puis, nous sommes tous des êtres de raison, nous devons pouvoir rendre compte de notre foi et notre capacité à rendre compte de notre foi est un des lieux où la rencontre peut s'approfondir aussi pour surmonter les incompréhensions et relever les grands défis auxquels les différentes communautés croyantes sont confrontées dans notre monde aujourd'hui. Voilà à tout grand trait les grandes balises de notre héritage pour la rencontre islamo-chrétienne. Je voudrais maintenant prolonger en reprenant la question alors plus théologique de la rencontre interreligieuse qui m'a parfois été posée dans les échanges d'après cours, en fin de cours. Comment être authentiquement fidèle à notre foi, que nous soyons chrétiens ou même musulmans, parce que finalement la question se pose à mon avis dans les mêmes termes, et entrer réellement dans une perspective de rencontre interreligieuse. Comment intégrer dans notre foi chrétienne cette dimension de la rencontre interreligieuse sans avoir l'impression de nous renier nous-mêmes. Finalement cela. De façon un peu caricaturale, pourrait dire qu'en théologie des religions non chrétiennes, il y a trois grandes positions types. Il y a une position qui consiste à affirmer qu'en dehors de la foi explicite en Jésus-Christ confessée en Église, catholique de surcroît, hein, il n'y a pas de salut possible. Hein, c'est l'exclusivisme. Hors de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, confessé dans l'Église catholique, pas de salut possible. Une autre position, à l'extrême inverse, consiste à dire que finalement, la foi en Jésus-Christ est une voie parmi d'autres pour accéder au salut, mais que d'autres croyants, d'autres voies, et l'image qui est parfois utilisée, c'est celle des chemins de montagne hein, qui tous vont vers le sommet, mais en parcourant des flancs différents de la montagne et en offrant des paysages différents à celui qui monte vers le sommet, mais qui va retrouver au sommet les autres qui ont suivi un autre chemin. C'est la perspective du pluralisme. Et puis, il y a l'autre, la troisième approche, qui est celle de dire que le salut est toujours en Jésus-Christ, même pour les non-chrétiens. Hein, qu'un non-chrétien peut être sauvé, mais que c'est en Jésus-Christ. C'est ce que l'on appelle la perspective inclusive. Donc on inclut dans notre approche théologique les croyants d'autres traditions. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette perspective inclusive n'est pas propre à la théologie catholique. Certains auteurs musulmans l'adoptent aussi pour essayer de nous sauver, nous. Hein. Donc, essayer qu'on ne brûle pas trop longtemps en enfer. Hein, donc, on est vraiment dans des modèles logiques, hein, dans une perspective de tradition monothéiste universaliste. Dans ces trois positions, d'un point de vue de la théologie catholique, il n'y en a qu'une qui est recevable. La première, l'exclusivisme, n'est pas recevable car elle porte atteinte à l'universalité du plan de salut de Dieu. Le plan de salut de Dieu est universel. On ne peut pas affirmer que le projet de Dieu est de sauver les chrétiens. La perspective pluraliste n'est pas recevable non plus parce qu'elle ne reconnaît pas l'unicité de la médiation du Christ. Hein, le Christ devient un chemin parmi d'autres pour le salut, mais dans la foi chrétienne, il est essentiel hein, de croire à l'unicité de la médiation du Christ, et donc il ne nous reste plus que la troisième perspective, qui est celle de l'inclusivisme, qui est une perspective qui n'est pas très facile pour aborder la rencontre, puisque l'autre peut avoir l'impression de ne jamais être vraiment rencontré pour lui-même. Hein, c'est une perspective qui annexe l'autre. Hein, tu es sauvé, mais ce n'est pas en raison de la foi que tu confesses, mais tu es sauvé en Jésus-Christ. Comment rencontrer vraiment l'autre lorsqu'on est habité par cette approche-là? Pourtant, c'est cette approche-là qu'en théologie chrétienne, nous devons suivre pour à la fois respecter l'universalité du plan de salut de Dieu et à la fois respecter l'unicité de la médiation du Christ pour le salut. Comment le faire? Personnellement, j'aime le faire en reprenant la question du salut, mais telle qu'elle se déploie à partir de la Bible tout entière. Souvent, comme chrétien, on a l'habitude de parler de l'Ancien, du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais si on écoute un peu les pères de l'Église, on se rend compte qu'il y avait une lecture plus fine de l'histoire du salut qui reconnaissait plus que deux alliances. Hein, par exemple, chez saint Irénée, hein, on peut lire que quatre alliances furent données à l'humanité. La première avant le déluge au temps d'Adam, la seconde après le déluge au temps de Noé, la troisième, qui est le don de la loi au temps de Moïse, la quatrième, enfin, hein, qui renouvelle et récapitule tout en elle, celle qui, par l'Évangile, élève les hommes et leur fait prendre leur envol vers le royaume céleste. L'intérêt de cette perspective patristique, en prenant différentes alliances, est de bien mettre en évidence que la visée de l'alliance est, dès l'origine, l'universalité du salut. Car l'alliance avec Adam ou l'alliance avec Noé sont bien des alliances universelles. L'alliance en Jésus-Christ a elle aussi une visée universelle. Donc on part de l'universel qui est visé dans le projet de salut de Dieu pour arriver à l'universel. Et entre les deux, on passe par le particulier. On passe par l'alliance avec un peuple particulier, qui devient le chemin par lequel Dieu trace au sein de l'histoire de l'humanité son projet de salut universel. Le projet de salut universel de Dieu a besoin de chemins particuliers pour pouvoir se tracer au cœur de l'histoire des hommes. On est dans le paradoxe. Pour aller à l'universel, en partant de l'universel, il nous faut passer par le particulier. C'est le chemin que Dieu a choisi. Il nous parle peut-être alors, de façon importante, de notre condition de croyant héritier de cette tradition. Cela nous conduit alors à nous interroger au sens de l'élection. Comment se fait-il qu'un particulier, Israël, se trouve élu, un petit peuple de rien du tout, parmi tous les peuples de la terre, pour être ce chemin particulier choisi par Dieu pour arriver à l'universel? Comment se fait-il? J'aime pour cela reprendre une belle expression ancienne, 1956, de Jean Danielou, qui, parlant de Abel, dans la Bible, dit que Abel n'est pas élu parce qu'il est juste, mais qu'il est juste parce qu'il a été élu. La question nous renvoie au mystère de l'élection divine, de la grâce de Dieu. Abel n'est pas élu parce qu'il est juste, il est juste parce qu'il a été élu. Alors si nous adoptons pour explorer ce projet de Dieu, cette perspective, je voudrais m'arrêter alors à cette figure qui est tellement importante pour nous chrétiens et aussi pour la rencontre islamo-chrétienne qui est celle d'Abraham. Vous vous rendez bien compte d'emblée que pour penser la rencontre interreligieuse, comme chrétiens, nous devons introduire du tiers. Nous devons penser le rapport au judaïsme. Le rapport islamo-chrétien n'est pas un rapport, la relation islamo-chrétienne ne sera jamais une relation contre les juifs. Elle sera une relation par les juifs. Donc, on est au cœur aussi de grands enjeux politiques, historiques de notre monde aujourd'hui. Et cela renvoie alors à l'engagement aussi politique des chrétiens dans les questions de notre monde. Le rapport à l'islam passe par Israël. Essayons ce passage. Que nous dit la Bible? Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham est béni, comme appelé, comme élu, et il est source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, à condition que les familles de la terre puissent le bénir à leur tour, puissent reconnaître l'élection comme une bénédiction. Tandis que ceux qui s'en offusqueront, qui maudiront l'élu, eux se trouveront maudits. Donc, la bénédiction donnée à Abraham et à sa descendance n'est pas destinée à sa seule descendance, mais est d'emblée destinée à toutes les familles de la terre, pourvu que ces familles puissent se réjouir, bénir celui qui est béni. Alors, cet épisode de la Genèse se trouve juste après l'épisode de la tour de Babel. On est au chapitre 12 de la Genèse, hein, on n'est pas au tout début. Toute l'humanité avait voulu construire ensemble une tour qui touche le ciel et se faire un grand nom. Mais le projet a échoué, l'humanité s'est retrouvée dispersée, parlant des langues différentes et ne sachant plus communiquer. Et après l'échec de Babel, où l'humanité voulait se faire un nom, voilà que c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est lui qui rendra grand le nom de celui qu'il a choisi. Sa bénédiction l'accompagnera et il sera source de bénédiction pour toutes les familles de la terre à la condition que celles-ci bénissent celui qui a été élu. Nous retrouvons ce lien entre la figure d'Abraham et la dispersion de Babel dans le livre de la Sagesse, au chapitre 10 du livre de la Sagesse, où il y a une relecture des grandes étapes de l'histoire du salut. Bien, ce lien entre Abraham et Babel est établi. Abraham est situé dans le prolongement de la dispersion de Babel. L'élection et l'alliance sont présentées comme le chemin de l'unanimité trompeuse pour sortir, comme le chemin pour sortir de l'unanimité trompeuse de Babel. Et nous touchons là alors la question décisive qui travaillera toute l'histoire du salut à travers toute la Bible. Comment faire pour que l'élu devienne source de bénédiction pour les autres? Ce sera là toute la question qui va travailler, moi ça me frappe de plus en plus, de l'intérieur, toute la Bible. Il y a deux terribles tentations qui vont sans cesse menacer le chemin. Il y aura la tentation que l'élu, au titre de son élection, ne se pose en tyran à l'égard des autres. On voit bien aussi à quoi cela peut renvoyer. Il y a l'autre tentation, qui est celle des autres, d'être jaloux de l'élu, et de dès lors vouloir l'éliminer. C'est entre ces deux tentations que l'histoire du salut va devoir se tracer, que le chemin de la bénédiction pourra rejoindre l'universel. Comment surmonter cette double tentation, celle de la tyrannie et celle de vouloir supprimer l'élu? Dans la perspective chrétienne, le dénouement de cette promesse faite à Abraham se trouve dans la personne de Jésus. Pour saint Paul, en particulier dans les épîtres aux Romains et aux Galates, c'est clair, c'est dans le Christ que la promesse faite à Abraham est réalisée. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ, si vous appartenez au Christ, c'est que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes héritier. Saint Paul mise tout sur l'appartenance au Christ pour être héritier d'Abraham. Il ne s'attarde pas beaucoup sur l'enseignement de Jésus, ni sur ce qu'il a fait, mais il se centre sur la croix. C'est là que la promesse est réalisée. Un Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit objet de la promesse. Galates chapitre 3. Donc la croix est ce par quoi la bénédiction d'Abraham, nous dit Paul, parvient aux païens en Jésus-Christ. La croix est le moment de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Un fin fil rouge, c'est vrai, s'était tracé tout au long des Écritures, laissant entendre que Dieu ne se soucie pas des apparences, qu'il choisit le plus petit, qu'il veut un petit peuple, humble et pauvre, que son serviteur a les traits d'un serviteur souffrant. Autant de petites touches qui ont sans doute aidé la première génération chrétienne à reconnaître qu'effectivement, dans la Pâque du Seigneur, quelque chose de décisif s'est joué pour l'accomplissement de la promesse, pour cette initiative de Dieu après Babel de rendre grand le nom de l'élu. Et ce n'est pas pour rien que les Actes des Apôtres décriront l'événement de la Pentecôte précisément sous les traits d'un anti-Babel. Tous entendent proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Il n'y a pas abolition des différences, des différentes langues, mais elles ne sont plus obstacles à la communion. Alors comment se fait-il que la croix joue ce rôle tellement décisif pour l'accomplissement de la promesse faite à Abraham ? Nostra Aetate le disait déjà, le devoir de l'Église dans sa prédication est donc d'annoncer la croix du Christ comme signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Numéro 4. Dans sa passion, Jésus a pris sur lui tous les traits de l'élu. Et les évangiles le soulignent fort, hein, en prenant toute cette comparaison avec le serviteur souffrant d'Isaïe, qui était à la fois une figure individuelle et une figure collective du peuple. À la fois individu et peuple, il a pris tous ses traits sur lui, et lui que la foule avait voulu faire roi et qui alors s'était dérobé, se trouve maintenant déclaré roi par l'inscription sur la croix, celui Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc la méfiance que la royauté soulevait dès le début en Israël de voir le roi se comporter en tyran de son peuple, de Samuel, deuxième livre de Samuel au chapitre 8, cette méfiance n'a plus d'objet. Ceux qui souhaitaient la royauté à l'époque la voulaient pour être comme les autres nations. Et lorsque Dieu donne le véritable descendant de David, le vrai roi berger de son peuple, la menace de tyrannie qui était exprimée à ce moment-là n'a plus de raison d'être. Le roi crucifié ne risque plus d'être tyran. Mais le peuple se trouve aussi dans un rapport différent aux nations. Bien qu'ayant un roi, il n'est toujours pas comme elle. C'est un autre rapport aux nations qui s'instaure que celui de l'identité d'être comme les nations. Si nous prenons au sérieux que la croix est vraiment le lieu où le vrai visage de l'élu et de sa royauté se révèle, nous devons prendre acte comme chrétiens du fait que c'est dans la disparition de toute grandeur, de tout pouvoir au sens historique du terme, que nous le reconnaissons. Et la croix de Jésus ouvre alors un espace qui est comme un lieu vide, un point final ou l'ouverture de nouveaux possibles qui ne dépendent plus de lui. Quelque chose est bien terminé sur la croix. Tout ce que Jésus a vécu avec ses disciples sur la route de Palestine est fini. Un récit se termine. Les évangiles l'ont bien compris, hein, qui ne prolongent pas le récit de la passion par un récit de résurrection. C'est quelque chose d'autre qui commence, ce sera d'un autre ordre, ce sera de l'ordre de l'annonce de la résurrection. Et si l'histoire se poursuit, ce n'est plus celle de l'élu comme grandeur historique, mais l'histoire de ce qu'il rend possible par sa résurrection dans la vie concrète de ceux qui en sont les témoins. Et les évangiles évoquent alors ces expériences en les nommant. C'est la guérison de la peur ou de l'infirmité, l'ouverture des cœurs devenus tout brûlants, la fraternité retrouvée, le fait d'être appelé par son nom ou de découvrir la fécondité que garde la parole dans la vie de ceux qui la reçoivent. Un corps a disparu, celui de Jésus sur la croix, mais un corps nouveau est en train de naître, rassemblé paradoxalement par celui qui n'est plus et qui pourtant est celui qui les anime. Et ce corps nouveau ne pourra, c'est ça qui est important, je crois, à bien percevoir, jamais rien revendiquer par lui-même, parce qu'il s'appuie sur un corps qui n'est plus. Il s'appuie sur la destruction de la puissance. La réalité de ce corps nouveau, de son existence, ne pourra jamais se vérifier qu'en s'exposant à l'autre, pour l'inviter à partager cette vie nouvelle que suscite un amour donné et vérifier ainsi la réalité de la résurrection. Or, bien sûr, tout au long de l'histoire de l'Église se répétera la tentation pour les témoins de s'ériger en élus, en opposition aux autres, comme s'ils tenaient par eux-mêmes et comme un bien propre ce qui les fait exister. Mais alors, chaque fois, selon une belle expression de Paul Beauchamp, le jugement biblique recommence, hein, ce long parcours qui a conduit jusqu'à la croix du Christ. Le jugement biblique recommence quand les chrétiens se scandalisent de trouver sagesse et justice hors du Christ. C'est le Christ qu'ils méconnaissent alors en se laissant séparer de lui par une image qu'eux-mêmes ferment en faisant du Christ aussi une loi où ils observent leur image dans un miroir. Et ce n'est effectivement qu'en s'ouvrant à l'autre que les chrétiens peuvent faire l'expérience de la réalité de la résurrection comme ouvrant à la fraternité universelle. S'ils veulent faire de leur foi un bien propre qui n'est pas partagé, ils ne verront jamais que leur image dans un miroir. Et je suppose que, comme moi, vous en faites l'expérience chaque matin. L'image dans un miroir n'est que promesse de vieillissement et de mort. Donc la rencontre est le lieu où l'identité chrétienne se joue. Et donc la perspective inclusive, dans une perspective de théologie biblique telle que je vous la propose ici, est une perspective inclusive qui nous met en situation non pas d'annexer l'autre en raison de quelque chose que nous posséderions comme un bien propre, une grandeur qui nous appartient, mais en mendiant de l'autre, parce que nous avons besoin de cet espace de la relation pour vérifier que le Christ est ressuscité et recevoir cette fraternité qui vient de lui et qui jamais ne nous appartient. Car le corps que nous formons est un corps qui ne peut se revendiquer d'aucune grandeur, d'aucun pouvoir propre. Je vois que le temps est déjà passé, donc je vais m'arrêter.